et Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez...
Oh, no problemo!
Camarade, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève.
Il sait qu'il y a pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
De réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il va y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Attendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'ai pu aller aveugler jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Bonsoir à tous et à toutes pour ce Canu Info du jeudi 31 décembre. Nous avons donc décidé d'être avec vous jusqu'à la fin de 2015. Ce soir, de quoi nous allons vous parler? Laurent, tu nous feras deux bilans, l'un sur les journalistes tués en 2015 et l'autre sur le bilan du Parti Socialiste. Nous parlerons aussi de la Corée du Sud et du Japon et des esclaves sexuels. Nous parlerons de Tariq Ramadan, nous parlerons d'un roman d'amour censuré en Israël, nous parlerons un petit peu d'Amazon, nous parlerons de Monsieur Erdogan qui a l'air très très fier de sa haine. Et puis nous parlons un peu de culture, nous parlons du musée des tissus et des arts décoratifs qui a des difficultés. Nous allons vous parler de plusieurs expositions que nous sommes allés faire en cette fin d'année à Paris et à Marseille. Laurent, tu nous parleras de BD.
Oui. Nous allons donc commencer ce Canu Info en parlant, en faisant le bilan, un petit bilan. Moi j'aurais deux bilans cette année. Un bilan concernant le Parti Socialiste sur sa mandature et un concernant donc les journalistes. Alors le chiffre est pas connu de manière très très précise, mais on serait aux alentours de 110 journalistes tués cette année, avec un net recul de la liberté de la presse en plus des journalistes tués. Donc c'est le chiffre véhiculé par Reporters sans frontières, qui est assez juste en général, même s'ils ont tendance à se focaliser sur les journalistes officiels et à laisser tomber les petites mains qui travaillent avec les journalistes. Mais en tout cas, leur chiffre fait quand même peur. Donc, d'après eux, 110 journalistes tués et au moins 67 dont on est sûr que c'est à cause de leur profession qu'ils ont été tués en tant que journalistes et pas en tant qu'individus qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour les autres, ils savent pas bien. Mais bon, ça peut être des journalistes tués en train de faire un reportage, mais qui sont pas identifiés presse, mais qui sont tués pendant le reportage, pendant une manif ou dans des choses comme ça. Donc, grosso modo, c'est pas très glorieux tout ça. On notera quand même que dans les pays les plus dangereux, la France est troisième cette année. Il faut dire que la France a pris une énorme avance début janvier de l'année dernière, enfin de cette année, avec l'assassinat des journalistes et des travailleurs de Charlie Hebdo, enfin d'une partie de Charlie Hebdo, parce qu'ils faisaient leur métier de journaliste, notamment des dessinateurs, un journaliste économique, un correcteur, enfin etc. Donc la France est très mal classée à cause d'un seul acte, mais qui est un acte énorme. Donc voilà, c'est pas plus glorieux sur la liberté de la presse. Hein. On a regardé, on a vu certains pays pas mal reculer, notamment la Turquie, hein, qui a beaucoup mis en prison des journalistes et des blogueurs, notamment ceux qui défendent les Kurdes, ceux qui défendent la démocratie, ceux qui sont contre le développement de cet islam rigoriste, hein, qui se développe beaucoup en Turquie. Enfin voilà, grosso modo, comme le disait Ban Ki-moon d'ailleurs, le bilan est pas très glorieux pour cette année 2015 au niveau de la presse. Radio Canu est encore vivant, tient encore pour, j'espère, de nombreuses années. Mais voilà, c'est quand même pas facile d'aller chercher des informations, de présenter ces informations, notamment dans des pays où la religion est très présente, hein, puisque plus la religion est présente, plus c'est dangereux, même si la France, c'est un contre-exemple, pour les journalistes indépendants.
Alors moi, je voudrais revenir sur un sujet dont on vous a déjà beaucoup parlé ici, ce sont les femmes de réconfort. Vous savez, ces esclaves sexuelles offertes aux soldats japonais avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Lundi, les gouvernements japonais et sud-coréens ont conclu un accord à l'issue d'une rencontre à Séoul. Alors, dans la presse, tout le monde parle d'accord historique.
Ah bah oui, parce que jusqu'à maintenant, ça se passait pas comme ça.
On va le relativiser hein, tout de suite. Alors, je vous rappelle, pour les chiffres, on parle pour les plus petits, le plus petit chiffre de 50 000 femmes, pour le chiffre le plus important de 400 000. En général, les historiens s'accordent autour de 200 000 femmes, des Coréennes, hein, mais aussi des Chinoises, des Indonésiennes, qui étaient mineures pour la plupart lorsque l'armée japonaise impériale est venue les chercher, prétextant les faire travailler dans des usines. En fait, elles ont été placées dans des camps appelés des maisons de confort, d'où les femmes de réconfort. Et ces femmes faisaient partie, il faut bien avoir l'esprit, hein, d'un système très organisé par l'armée japonaise, donc pour satisfaire ces soldats. Alors, dans cet accord, le gouvernement japonais reconnaît une responsabilité et puis a annoncé contribuer à un fonds spécial pour venir en aide à ces 46 femmes qui sont encore en vie aujourd'hui. Alors, le Japon a annoncé débloquer 7,5 millions hein, dans ce fonds d'aide. Alors, on peut se demander comment on en est arrivé à cet accord. Alors, il semblerait que les États-Unis d'Amérique aient beaucoup participé à ce que cet accord ait lieu, en particulier avec des pressions aussi auprès de la Corée du Sud, qui jusqu'à présent était très ferme sur cette question. Bon, c'est aussi un moyen pour la Corée du Sud un peu de jeter quand même cette affaire au passé, un passé qui devient un peu gênant dans cette diplomatie. Hier, c'est une centaine de manifestants qui sont réunis devant l'ambassade de Tokyo à Séoul pour dénoncer hein, cet accord qui est jugé humiliant. Il faut savoir que ces femmes réclament aujourd'hui des vraies excuses et puis une responsabilité judiciaire officielle. C'est-à-dire que vous avez bien entendu que le Japon, le gouvernement japonais va créer un fonds spécial. C'est donc une fondation qui va ensuite redistribuer cet argent, mais c'est pas, si vous voulez, une compensation financière pour crime. C'est pas la même chose. Et depuis le départ, en fait, le Japon, tous les gouvernements hein, japonais successifs jouent un petit peu avec les mots, jouent un petit peu avec la diplomatie pour finalement un petit peu toujours rester en retrait hein, face à toutes les discussions qu'il y a pu avoir. Il faut savoir que pour le gouvernement japonais, en fait, cette affaire était close depuis les années 60 avec déjà des différents accords, ce que ne reconnaissait pas du tout la Corée du Sud. Alors, dans cet accord, le problème, c'est qu'il est très très large. Et en fait, l'idée, c'est que chaque pays puisse finalement gérer cet accord avec sa propre population. Vous voyez, c'est-à-dire que ça permet tellement finalement à chacun de se sortir d'une affaire politique et de polémique que finalement tout ça reste très 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 vague. On se demande d'ailleurs comment cet accord va pouvoir être appliqué, puisqu'il faut bien se rendre compte que le Japon fait un peu des excuses. Oui, mais c'est du bout des lèvres et puis c'est pas toujours officiel. Là, par exemple, c'est le Premier ministre, Monsieur Abe, qui dit qu'il s'excuse en son nom. Mais c'est pas la même chose que l'État japonais. Oui, il y a de l'argent, mais c'est un fonds d'aide. C'est pas, donc, comme je vous le disais, un versement officiel pour crime. Il n'y a pas une responsabilité juridique officielle. Il y a des excuses qui sont souvent quand même très partielles. Et puis, surtout, il y a un refus du passé. C'est-à-dire que, même si aujourd'hui il y a un accord, le sujet est encore très tabou. les manifestants et les manifestantes ont donc parlé d'accord humiliant. Pourquoi ? Puisque le Japon a demandé à la Corée du Sud de ne plus aborder ce sujet lors de conférences internationales, c'est-à-dire de ne plus critiquer le Japon sur son passé. Donc ça, pour les associations et pour ces femmes, c'est inacceptable. Dans ce sens, il y a une grosse polémique en Corée du Sud. C'est une demande qu'aurait fait le Japon dans le cadre de cet accord, qui concerne une statue, une sculpture qui se trouve juste devant l'ambassade japonaise à Séoul. C'est une statue en bronze qui représente une fillette assise. À côté d'elle, il y a une chaise qui est vide. Elle a un petit oiseau sur l'épaule qui représente la liberté et la paix. Elle a un papillon sur le torse. Ça, c'est pour la Renaissance. L'association qui a posé cette sculpture tient à rappeler que c'est une sculpture pacifiste. C'est une fillette calme, zen, et que c'est un travail de mémoire pour les générations futures. Sauf qu'a priori, le Japon a demandé à ce que cette sculpture soit enlevée, soit retirée de cette installation. Jusqu'à présent, la Corée du Sud, le gouvernement japonais avait, le gouvernement sud-coréen, excusez-moi, avait refusé d'enlever cette œuvre en disant que c'était une œuvre qui avait été installée grâce à des dons privés, grâce à une organisation privée, et qu'elle n'avait pas la possibilité de pouvoir intervenir. Il semblerait que ça soit pas si clair maintenant. On sait pas bien ce que va faire le gouvernement sud-coréen. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui montrent quand même que le Japon a du mal avec son histoire, encore du mal à faire face. Pourtant c'est ce que demandent ces femmes, c'est des excuses droit dans les yeux. C'est quelque chose qui semble assez simple, mais pourtant là qui est très 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 compliqué pour le gouvernement japonais. Mais dans le cadre de ces difficultés comme ça, moi je me suis replongée dans une affaire qui concernait la marque Nikon. Vous savez, les appareils photo, c'est une marque japonaise. Ça avait touché un photographe coréen qui s'appelle Han Seong, qui en 2012 avait souhaité réserver un salon Nikon à Tokyo pour montrer une exposition sur un travail en noir et blanc, un travail de photographie. Il a été rencontré pendant une décennie des femmes, en particulier des Chinoises, qui ont été des esclaves sexuels pour ces soldats japonais. Et donc il avait souhaité exposer son travail au Japon, et face à un lobby d'opposition à son travail au Japon, Nikon avait fait marche arrière. Le photographe avait été jusqu'en justice, avait gagné, il avait pu exposer. Il faut savoir que sur place, il avait eu des problèmes, il y avait des dégradations, il avait été menacé. Donc voilà, le Japon encore malgré tout du mal à faire face avec son histoire, avec son passé, et cet accord est finalement signé un peu vite et laisse un goût amer certainement pour ces femmes.
Alors on va poursuivre avec Tariq Ramadan qui s'est encore fait choper avec quelques propos homophobes. Hein, c'est une vieille habitude chez cet intellectuel soi-disant progressiste de l'islam, qui n'est progressif qu'en façade, puisqu'on le connaît quand même très très bien pour l'avoir rencontré il y a depuis plusieurs fois ces 20 dernières années, on va dire. Donc il a tenu des propos qui ont été donnés par le magazine marocain qui s'appelle Tel Quel sur l'homosexualité lors d'une conférence à Doha, donc au Qatar. Donc il explique à des parents, je cite les paroles de Tariq Ramadan, « Dans tout l'Occident, il y a une volonté de normaliser l'homosexualité dans l'enseignement du fait que c'est un comportement normal. » Il appelle les parents, donc Tariq Ramadan appelle les parents musulmans à contrer ces discours, donc contre la normalisation de l'homosexualité, auprès de leurs enfants, les invitant à être présents aux côtés de leurs enfants pour leur dire ce que l'islam dit à propos de l'homosexualité, et leur faire comprendre que dans la religion, il y a le respect des individus, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. On ne peut pas, alors il y a tout plein de phrases encore, et il finit par « on ne peut pas normaliser ça », on ne peut pas normaliser donc l'homosexualité. Alors, la vidéo est disponible sur Internet, c'est SOS Homophobie hein, qui l'a mise à disposition. Alors, c'est pas la première fois. Il est très très intelligent, Tariq Ramadan. C'est bien une des rares qualités qu'on peut lui prêter, d'adapter son discours face à son public. Hein, on sait qu'il est musulman parce que il le véhicule tout le temps. Hein, il le dit tout le temps. Il parle de l'islam en permanence. Il se prétend progressiste. Or, en fait, il n'est jamais progressiste, notamment sur l'homosexualité. Alors, si on va sur son site, il y a une partie qui s'appelle Islam et homosexualité, où il rappelle que bon, d'abord, il faut pas se servir de l'homophobie des musulmans pour dire qu'il faut pas reconnaître l'islam comme étant une religion comme les autres. Ça, je suis bien d'accord avec lui. Les autres religions l'ont bien démontré. Elles sont aussi homophobes. Ça, on va pas faire de discrimination. On est d'accord avec Monsieur Ramadan là-dessus. Par contre, c'est pas parce que les autres religions sont homophobes qu'on doit l'être soi-même et que la religion dans laquelle sur laquelle on adhère doit l'être et qu'on doit accepter ça. Or, il se sert de cette excuse-là et aussi de Freud qui a considéré l'homosexualité comme une perversion pour dire bah voilà, on n'est pas les seuls, donc voilà. Alors bien sûr, il a ce discours soi-disant progressiste en disant mais je demande pas à ce qu'on tue les homosexuels. En gros, c'est ce qu'il dit, faut pas attaquer les gens. Mais nous ne sommes contre l'homosexualité. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et en reprenant notamment le discours de Freud, c'est le discours très rétrograde de que c'est une perversion, une maladie et tout ce qu'on veut. Donc voilà. Finalement, dans son discours, il n'est pas si loin de ce que véhiculaient tous les gens de la Manif pour tous, notamment, qui disaient qu'ils ne voulaient pas attaquer les homosexuels, mais ils ne voulaient pas qu'on reconnaisse l'homosexualité. Un discours un peu ambigu pour dire, regardez, on ne veut pas les mettre en prison, les mettre dans une île déserte ou je ne sais quoi, mais quand même, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et ce n'est pas bien de faire ça. Donc voilà, alors vous allez me dire, Tariq Ramadan, on le connaît depuis longtemps, on se rappelle de ses conférences, alors je ne sais pas s'il en fait encore, moi, une m'avait suffi, où les femmes et les hommes étaient séparés, chacun d'un côté, avec le même discours présent dans toutes les religions monothéistes, puisque c'est la même base, que les femmes sont impures, donc il ne faut pas se mélanger, avec le discours en plus rajouté par certains musulmans qu'il y a la tentation, puisque les hommes musulmans sont particulièrement faibles, et qu'il y aurait la tentation d'aller sauter sur les femmes, c'est ce que j'ai compris, moi, de cette idée de séparation, de ces deux trucs, l'impureté de la femme et la faiblesse de l'homme, quelque part. Bon, il reste quelqu'un de réactionnaire dans la majorité de ses idées, mais la dangerosité de cet homme-là, et c'est un des plus dangereux, à mon avis, prédicateurs religieux qu'on ait en Europe, c'est qu'il arrive à mettre dans son discours des paroles d'humanité, d'humanisme, et se faire accepter. On l'a vu être invité par le parti, le NPA, voilà, qui lui aussi a succombé finalement à son discours qui en apparence peut paraître progressiste alors qu'il ne l'est pas, mais on a l'émission Son Bâtard de Radio Canu qui a diffusé des paroles de Tariq Ramadan. Voilà, ce discours réactionnaire que porte Tariq Ramadan est très dangereux, arrive à convaincre même des gens qu'on pourrait qualifier de gauche, pas l'émission de Canu, mais en tout cas le NPA, c'est plutôt un parti de gauche, et ben eux aussi, ils se font instrumentaliser par Tariq Ramadan, qui certes a un discours des fois, tous les musulmans font pas des attentats, etc., on est bien d'accord, il n'y a pas de souci, mais il se sert de ça pour faire passer le reste, et donc voilà, et notamment chaque fois qu'il se fait tacler sur l'homophobie, enfin sur l'homosexualité, il n'arrive pas à s'en... Il a ce double discours, que l'islam doit rester homophobe, mais qu'il faut respecter quand même quelque part les personnes. Voilà, pour histoire de se faire accepter par tout le monde. Donc quelqu'un de très dangereux, mais qui s'est à nouveau pris les pieds dans le plat. Et puis, on va rester dans le racisme et dans la censure, avec des personnes dangereuses, du coup, avec le ministère israélien de l'éducation, qui a provoqué un petit scandale en Israël, puisqu'il y avait un livre qui avait été proposé au programme de littérature pour les lycées, un roman, et un roman d'amour, et le ministère de l'éducation a dit non, nous refusons que ce livre soit proposé aux lycéens. C'est un livre dangereux, quelque part. Ah, dangereux, pourquoi donc? Alors, resituons les choses. Le ministère est dirigé par le chef du parti nationaliste religieux, donc l'extrême droite, qui s'appelle Foyer Juif. C'est Naftali Bennett. Donc lui, juif intégriste, il n'y a pas de souci là-dessus. On connaît ses idées. Et le problème, c'est que ce livre, il parle d'une histoire d'amour entre une Israélienne et un Palestinien.
Ouais, c'est un peu Roméo et Juliette.
Voilà, c'est un peu Roméo et Juliette dans l'idée. Donc ça, bien évidemment, ça énerve le raciste que peut être ce ministre de l'éducation en Israël. Donc il a fait avec, alors il n'est pas tout seul, les autres gens, les autres personnes qui travaillent au ministère sont de son bord, ont aussi porté ce discours contre ce livre, et donc finalement n'ont pas autorisé ce livre. Alors ça a un contre-coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup les médias en ont beaucoup parlé, et l'ouvrage se vend bien dans les librairies, parce que une partie de la population israélienne, qui est quand même, elle, progressiste, ouverte, s'est dit, mais j'avais pas lu ce livre, peut-être que c'est bien. Donc ils se sont mis à lire ce livre de Dorit Rabiyan. Alors je sais pas quel est le nom en français, d'ailleurs je sais même pas si le titre existe en français, si c'est traduit en français, je crois pas. Il existe en anglais, ça s'appelle Border Life. En hébreu, ça doit être Gedoraya, et peut-être qu'en français, c'est « est », une « est ». Mais j'en suis pas sûr que ce soit pas le mot hébreu. En tout cas, voilà, c'est pour dire que le racisme est présent partout, et que ça a été, je pense, 2015, l'année de l'explosion du racisme en France. On l'a bien vu, des discours racistes, portés d'ailleurs par l'extrême gauche, la gauche, la droite, le centre, et par un peu tout le monde, mais aussi dans d'autres situations, comme Israël. On rappelle d'ailleurs qu'en Israël, il n'est pas possible pour un musulman de se marier avec une juive, hein, puisque les seuls mariages religieux sont autorisés, et donc comme le mariage religieux ne peut se faire qu'entre deux personnes de la même religion, les mariages interconfessionnels ou entre athées et croyants, ou même entre athées tout court, ne sont pas possibles. Donc voilà une autre forme de racisme anti-athée. On rappelle, les athées sont entre 13 et 15% dans le monde, et sont donc la plus grosse, la minorité religieuse la plus mise en danger. D'ailleurs, on l'a vu en janvier dernier, puisque c'est une des raisons de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo.
Je te suivrai pas sur l'appellation racisme anti-athée, mais je vois l'idée que tu voulais
pas,
développer.
La discrimination anti-athée, si tu veux.
Alors,
c'est pas une question de race.
On va parler d'Amazon. Amazon, le cœur sur la main.
Bah oui.
La main sur le cœur. C'est beau, Amazon. Alors Amazon est beaucoup, le groupe, la multinationale, est pas mal dans la presse, parce que Amazon communique sur ses 3 millions d'abonnés premium. Ah bah ouais. Et puis ils communiquent beaucoup sur le fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup vendu pour ces fêtes de Noël 2015. Et puis il y a d'autres petites affaires qui touchent Amazon. On a donc appris qu'Amazon avait décidé de reverser aux réfugiés des recettes tirées de la vente d'un morceau de musique musicale mis en ligne par Pegida. Oui, vous savez bien ce mouvement
raciste ou fasciste
anti-migrants, ouais. Qui aime pas les étrangers, raciste, qui aime pas les musulmans, enfin bon, qui fait beaucoup parler de lui, malheureusement, très populiste. Alors ce morceau était « Ensemble, nous sommes forts », qui est disponible sur d'autres plateformes. Et donc face à une polémique en Allemagne, Amazon a donc décidé de reverser aux réfugiés une part de ses revenus. Alors un tiers du produit de la vente va être conservé par Amazon quand même, il faut pas déconner. Voilà, mais ça fait appel un petit peu à toutes ces choses qu'on peut trouver sur la plateforme et qui parfois, sont des trucs racistes, mis en ligne par des racistes, et que ça pose un petit peu des problèmes, et que Amazon vend de tout, il faut bien le dire, de la machine à laver au truc le plus pourri et le plus raciste.
Pour une fois, le truc sympa, c'est que ça doit énerver énormément ces fachos de Pegida, parce que l'argent de leur disque va en partie aller à l'aide aux réfugiés. Ça, c'est un beau quand même.
Oui, c'est de l'ordre du symbole. On peut penser que les montants seront pas très importants. Amazon ne donne pas trop d'informations pour l'instant, en plus, sur exactement qui va bénéficier donc de cette somme. Voilà, en même temps, je sais pas si j'aurais envie de bénéficier de la somme provenant d'une telle vente.
Oui, moi non plus.
Ça pose aussi des tas de questions.
Quand on est réfugié et qu'on est en difficulté, on peut pas non plus forcément faire trop le difficile.
Non, mais pour les organisations qui peuvent le recevoir, ça peut être des vrais débats aussi au sein des structures.
Ouais.
Voilà.
Alors, on va rester dans le racisme avec peut-être un des champions du monde actuellement. C'est monsieur Recep Tayyip Erdogan, le président tout-puissant de la Turquie moderne. En tout cas d'aujourd'hui, puisqu'il a fait ses vœux du nouvel an aujourd'hui, en ce 31 décembre. Et il s'est réjoui. Et c'est le mot qu'il a utilisé, d'avoir nettoyé son pays des rebelles du parti des travailleurs du Kurdistan. Et il a utilisé ces mots-là, nettoyer. c'est quand même assez atroce d'entendre ça dans la Turquie, qu'on pensait moderne il y a quelques années, hein, il y a 15 ans, on se rappelle, quand il y a eu les débats sur est-ce que la Turquie doit rentrer dans l'Europe ou pas, et qu'il y avait notamment la droite française et l'extrême droite, hein, pour des raisons racistes qui s'opposaient à l'entrée de la Turquie en Europe, on aurait eu tendance, pour des raisons antiracistes, de dire, ben non, les Turcs, ils auraient le droit, ils ont le droit, comme les autres d'ailleurs, de faire partie de ce mouvement, ce groupe, s'ils en ont envie. Bah là aujourd'hui on a beaucoup moins envie d'avoir Recep Tayyip Erdogan comme copain, comme collègue, comme faisant partie du même groupe que nous, hein, vu le racisme qu'il véhicule et vu la haine qu'il porte aux Kurdes, et une haine qui est pas simplement une haine verbale, une haine qui se chiffre par des milliers de morts. Puisqu'il était content, toujours M. Erdogan, et son petit Premier ministre, hein, M. Davutoglu, d'annoncer qu'ils étaient arrivés à tuer déjà 3100 terroristes. Alors, c'est pas des terroristes de l'État islamique, non, c'est des militants kurdes. Hein, mais militants kurdes égale terroristes, hein, pour M. Erdogan. Donc voilà, il a fait toute une propagande sur ce qu'ils ont mis en œuvre pour lutter contre les terroristes du PKK, notamment les couvre-feux de certaines villes à majorité kurde, d'une partie de la Turquie, hein, notamment je crois le sud-est. Enfin voilà, il s'est glorifié de tout ce qu'il a fait. Et ben c'est quand même horrible d'entendre ça, de voir que l'OTAN continue de garder la Turquie dans son groupe, que l'Union européenne est allée donner de l'argent à la Turquie pour gérer les réfugiés syriens, alors que la Turquie est en grande partie responsable de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État islamique, que la Turquie est responsable de la misère, des malheurs, des morts que subissent les Kurdes, aussi bien en Turquie d'ailleurs, mais que les Kurdes qui se situent en Syrie et les Kurdes qui se situent en Irak. Donc voilà, ça reste aujourd'hui un gouvernement irrespectable, et on aimerait bien un jour que les politiques aient un peu une conscience politique, justement, et qu'ils arrêtent d'aller serrer la main à M. Erdogan, pour des raisons de politique politicienne, ou de réalisme politique, comme on dit, qui amène quand même à faire pas mal d'horreurs. Et alors, on va parler d'horreurs politiques aussi, avec un site qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle bilan-ps.fr. Alors, c'est quoi ce bilan-ps.fr? Alors, c'est, on sait pas bien qui, mais a priori, plutôt des gens qui sont au départ proches du PS, qui ont eu l'idée de faire la liste de tout ce que le gouvernement socialiste a fait depuis qu'il est au pouvoir à travers la présidence de M. François Hollande, et notamment de tout ce qui est à l'encontre du programme et des idées véhiculées par le Parti Socialiste. Et on a une liste. Alors, chaque fois, il y a une liste. Alors, par exemple, pour la sécurité, on nous dit, bah voilà, l'état d'urgence est étendu à 3 mois, le projet d'extension à 6 mois et inscription dans la Constitution, interdiction des manifestations non commerciales, assignation à résidence d'opposants, déchéance de nationalité, donc rupture de l'égalité entre citoyens, vote avec l'UMP d'un amendement contre Taubira, enfin sur la projet de loi de renseignement contre ce qui avait été prévu. Ils envisagent la privation de liberté à titre préventif, un peu comme l'assignation à résidence. Enfin, voilà. Et en face de tous ces titres comme ça, on a un lien avec l'article qui fait référence et qui détaille, qui a été pris dans la presse. Alors du coup, il y a des liens qui vont sur tous les journaux et qui détaillent comme ça, on va dire thème par thème, tous les reniements, toutes les trahisons, toutes les horreurs du Parti Socialiste. Alors, on a par exemple aussi une rubrique sur la fiscalité, 900 millions d'impôts, d'euros de réduction d'impôts pour les riches. Sapin qui avait demandé le retrait d'un amendement dont le but était de taxer les dividendes, le maintien des niches fiscales, le pacte de responsabilité avec ces milliards qui sont donnés aux entreprises et qui n'embauchent pas en échange, etc. Sur le salariat, la rubrique salariat, on a tout ce qui concerne la loi Macron, la criminalisation de l'action syndicale, la répression contre la Confédération paysanne et à l'inverse, le soutien à la FNSEA. Et vous avez comme ça différentes rubriques sur l'industrie, sur la solidarité, sur l'international, sur le transport et l'écologie. Alors l'écologie, on a l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la loi Macron sur les déchets radioactifs, enfin bon, tout ce qu'a pu faire. Et ça, ça tient, bah, il doit y avoir, je sais pas, 150 lignes comme ça, sur l'éducation, sur plein de choses, avec chaque fois un article, une source, des explications, et qui montre jusqu'où va la trahison du Parti Socialiste. Finalement, je pense que, enfin, pour, à la fin, on retiendra le seul chose, mesure dite de gauche qu'ils ont fait passer, c'est le mariage pour tous, finalement, et qu'ils regrettent souvent de l'avoir fait passer, d'ailleurs. Voilà, c'est un bon moyen d'avoir un bilan un peu exhaustif des actions de ce gouvernement. Alors, ça fera sûrement plaisir à la droite, mais c'est, je pense, plutôt à vocation des gens de gauche pour essayer de mettre une claque à ces traîtres socialistes, qui n'ont de socialistes que le nom. D'ailleurs, l'idée, hein, c'est qu'ils s'appellent sociodémocrates, parce que quand on est sociodémocrate, on a le droit de trahir. Au moins, on a pas le nom socialiste dans son parti.
Alors, on va ouvrir une page culture, mais d'abord pour parler des difficultés financières. On en reviendra après sur les expositions. On va parler du musée des tissus de Lyon. Vous savez, il se situe dans le deuxième arrondissement, rue de la Charité. C'est deux hôtels particuliers qui sont assez beaux, assez bien entretenus. C'est un musée lyonnais qui a été fondé en 1856 par des industriels de la soierie, de la région. Et le gérant, le propriétaire, c'est la CCI, la Chambre de Commerce et l'Industrie de Lyon. C'est une exception, c'est assez particulier. Eh ben, la CCI a annoncé il y a déjà quelques temps que la Chambre de Commerce ne pouvait plus assumer son fonctionnement. Il n'y a plus de pognon, c'est très simple. La CCI explique avoir tenté de ne pas toucher au musée lorsqu'il y a eu une restructuration du personnel à la CCI. Il y a quand même eu un plan qui a touché 10% du personnel de la CCI. A eu des réductions financières. La CCI aujourd'hui explique ne plus pouvoir tenir. Donc, par exemple, la CCI se dit prêt à vendre les bâtiments, estimés à 10 ou 15 millions d'euros selon les estimations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est peut-être pas un musée où vous allez souvent, le musée des tissus. C'est un musée qui est l'un des plus importants au monde au niveau de ses collections. C'est des millions de créations qui sont rassemblées au sein de ces collections. Toutes ne sont évidemment pas visibles, ces pièces. Il y a beaucoup d'expositions temporaires. Et puis, c'est aussi un lieu d'échange pour des artistes, des scientifiques du monde entier qui viennent au musée, puisqu'il y a des pièces qui sont très anciennes. Voilà, donc c'est un travail aussi de patrimoine que mène ce musée, un travail de recherche, et un travail scientifique et un travail artistique. Il y a une pétition qui a été lancée, il y a des tas de gens de tout plein de pays, alors on nous parle de 122 pays qui auraient signé, 50 000 signatures. Bon, le truc c'est que ça fait pas rentrer l'argent, il faut être tout à fait honnête et tout à fait clair. Alors bon, qu'est-ce qui est envisagé pour tenter de sauver ce musée? Alors, on parle évidemment on pense tout de suite à une tutelle publique, la ville, la métropole, la région, l'État. Sauf que en face, a priori, ça réagit plutôt, c'est tiédasse, on va dire, au niveau national. Il y a une tentative de rapprochement, semble-t-il, avec le musée du Louvre. Au niveau des collections, ça pouvait, et du travail artistique et scientifique, ça pouvait se rapprocher. Le son de cloche qui vient du ministère de la Culture, c'est que c'est pas une solution viable. C'est pas possible, et puis il faut laisser le musée dans son environnement lyonnais. C'est la réponse qui a été faite. Du côté local, la métropole, la ville de Lyon, tout ça dit, nous on n'a pas l'argent. C'est-à-dire qu'il faut 1,7 million d'euros pour faire fonctionner le musée. L'argent, on l'a pas, c'est ce qu'a déclaré l'adjoint à la culture, monsieur Kepenekian. Faut se rendre compte qu'il y a quand même le musée des Confluences et le musée gallo-romain de Fourvière qui viennent d'arriver, qui pèsent lourd quand même dans les finances de la culture au niveau local. Alors bon, on se demande ce que monsieur Vauquier, tout juste élu,
c'est lui,
va pouvoir faire. Est-ce que ça va l'intéresser? Est-ce qu'il va participer? Puis tout simplement, est-ce qu'il va y avoir de l'argent pour pouvoir financer ce musée? Alors, on pense évidemment aussi au côté privé. Est-ce que il pourrait y avoir un retour d'un investissement plus important au niveau des industriels du textile? a priori un rapprochement avec l'Union Interentreprise Textile Lyon Région, l'Intex, qui pourrait peut-être participer, mais comme on dit souvent, il faudrait d'abord qu'il y ait du public pour qu'ensuite il y ait du privé. Hein, c'est un peu toujours comme ça. Et puis pour le public, eh bien, faut d'abord qu'il y en ait une des collectivités qui mette le pied dedans pour que les autres suivent. Donc tant qu'il y aura personne qui bouge, ben ça risque d'être difficile. Alors on parle quand même d'une fermeture à très moyen terme, hein, c'est-à-dire là, avant la fin de la saison 2016. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par la direction. Voilà, donc c'est une affaire qui va être en cours sur ce début 2016, au niveau local. Alors, je propose maintenant que nous vous parlions un petit peu des expositions que nous sommes allés découvrir. Et nous pourrions commencer par des expositions parisiennes, la première à la bibliothèque du Centre Pompidou.
Tu veux dire Claude Bretéché ?
Oui.
Figure historique, hein, du dessin de presse, enfin dans la presse, elle paraît dans la presse, mais c'est pas du dessin de presse, c'est de la bande dessinée, avec des classiques hein, maintenant, comme Les Frustrés notamment. Donc une expo sur elle, qui est un peu planquée hein, quand même dans ce centre Pompidou.
Ouais, c'est organisé par la bibliothèque, donc effectivement ouais. Ils ont un tout petit espace.
Et puis bon, c'est une expo qui peut faire polémique aussi, parce que c'est une féministe, parce que il y a des propos qui sont quand même... qui aujourd'hui, bizarrement, ne passerait plus dans une bande dessinée, aurait du mal à passer, alors que ses propos passaient dans les BD des années 80 ou 90, notamment sur les femmes, sur la nudité, sur le sexe, sur des choses comme ça, où il y a eu quand même un recul. Les religions ont fait reculer hein, la France sur ce domaine-là. Donc il y a une espèce de mise à l'écart quand même de cette expo, qui est très bien. Alors on découvre un peu ce qu'elle a pu faire, ses compromissions aussi, parce que c'est quand même
atroce.
Quand
on voit les
quoi.
Affiches qu'elle a pu faire pour les grands magasins parisiens, ouais. C'est un petit peu dommage. C'est ce côté qu'on pourrait lui reprocher, mais enfin, en même temps, c'est aussi son travail. C'est intéressant de voir... alors, c'est une monographie, hein, donc c'est chronologique sur une partie. Donc, sur une des parties, elle va être chronologique, c'est-à-dire qu'on va suivre son arrivée aussi dans les différents journaux auxquels elle a participé, en particulier à la presse alternative, où elle a s'est retrouvée avec pas mal de mecs. Bah,
oui, le dessin
et donc,
était
elle
très
raconte
peu féminin
aussi
avant,
ça, voilà, parce que c'était une des rares femmes dans ce milieu, donc elle n'a jamais fermé sa gueule hein, là-dessus, parfois.
Ceci dit, elle n'a jamais trouvé, dit que le milieu était misogyne.
Hein. Non, mais elle dit que c'était un rapport violent, mais elle l'aurait toujours rentré dedans, a priori.
Voilà,
aussi,
elle l'aurait toujours rentré dedans, et en même temps, dans ses journaux, elle est arrivée au moment où ses journaux s'émancipaient, notamment de la tutelle religieuse. Hein, on se rappelle que elle a écrit des choses dans Pilote, dans Harakiri, des journaux qui sont nés pour faire sortir la BD du monde de l'enfant et pour la faire entrer dans le monde de l'adulte, et de parler des sujets d'adultes, des sujets politiques, de parler du sexe, notamment pas mal du sexe quand même à l'époque, hein, qui était le truc que le truc à pas faire pour notamment l'Église, hein, qui était encore très présente dans la censure hein, dans les années 70. Et voilà, donc elle est arrivée aussi au milieu de ces mecs qui voulaient de l'émancipation et qui ont donc, je pense, plus facilement accepté cette femme, alors que je pense elle aurait fait du dessin pour enfants dans les années 50 ou 60 dans la BD pour enfants, elle aurait eu peut-être plus de mal parce qu'il n'y avait pas eu cette volonté d'émancipation des années 70. Donc elle est arrivée aussi au bon moment. Et on voit, moi je trouve, avec ses dessins, alors du coup il y a beaucoup de choses à lire hein, puisqu'on a des planches de BD à lire.
Oui, puis il y a toute la première partie, il montre toute sa technique, donc c'est vrai que c'est aussi important parce que ça repositionne aussi son trait. Tu aurais pu dire aussi qu'elle avait été aussi, elle est devenue aussi très connue par sa collaboration avec le Nouvel Obs, où avec la régularité de ses dessins l'ont amené aussi à pouvoir beaucoup s'exprimer régulièrement, puis amener aussi des idées, et puis être très très connue.
Ce qui était d'ailleurs assez bizarre, hein, que le Nouvel Obs, cet hebdomadaire qui est plutôt classé à gauche, qui est le seul un peu classé à gauche d'ailleurs des hebdomadaires, ait accepté Claude Bretéché dans ses pages, parce que c'était quand même beaucoup plus à gauche que le contenu du journal. Et ben non, ça s'est fait parce que l'intérêt du dessin de presse, de la BD notamment, c'est qu'on peut faire passer des choses qui sont plus radicales, plus facilement. D'ailleurs, c'est pour ça que les dessinateurs sont aussi facilement attaqués, parce que avec un dessin, trois traits, on fait passer des choses, et finalement, des fois, on fait pas attention, mais là, oh, ce qu'elle a dit sur la liberté sexuelle, c'est énorme pour l'époque, ce qu'elle a, voilà, on se rend compte de ça, quoi.
Ouais, et puis il y a d'autres sujets, hein. Alors, il y a le couple homosexuel qu'elle a mis aussi en scène pendant un petit moment. Et puis, il y a toute sa série sur le fait d'être parent, la filiation,
où, c'est assez hardcore, du coup.
Souvent, c'est hardcore. C'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire une femme à un moment qui se complaît pas dans la maternité et qui vient vous dire que non, accoucher c'est dégueulasse, qu'au bout d'un moment son gamin, bah ça l'a fait chier, et voilà, donc à ce côté-là, puis Agrippine, hein, cette adolescente que beaucoup d'entre nous avons pu lire aussi à un certain moment, voilà, donc c'est une exposition qui est très dense dans un tout petit espace, faut avoir quand même le corps solide parce qu'il y a beaucoup à lire, et puis on a envie de relire, on a envie de se replonger dans toutes ces planches qui sont proposées. Il y a beaucoup de documents qui sont des documents originaux, donc ça c'est très intéressant. Ça fait partie aussi de ces expositions où il y a une scénographie aussi pour les malvoyants, donc c'est très bien parce qu'on peut aussi toucher les traits et ressentir du bout des doigts, le travail de la dessinatrice, et ça c'est assez exceptionnel. Voilà, donc c'est une exposition que vous pouvez donc retrouver en accès libre, ce qui est pas simple malgré tout pour entrer au Centre Pompidou, on le dit tout de suite, jusqu'au 8 février prochain, c'est donc à la Bibliothèque publique d'information. Et puis, nous, dans notre périple parisien, nous sommes allés à la Cité de la Science pour une exposition Darwin, l'original.
Alors, c'est la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et on est allé voir l'expo sur Darwin, parce que nous, on aime bien Darwin, ne serait-ce que parce que ça énerve tous les religieux monothéistes du monde. Hein, parce qu'on rappelle, les trois religions monothéistes ne reconnaissent pas Darwin et la théorie de l'évolution. Et s'y attaquent férocement, violemment, des fois, sur les scientifiques. Donc, c'est intéressant de faire une expo à la Cité des Sciences qui s'adresse, on rappelle, avant tout aux enfants et aux... Alors là, c'est plutôt orienté adolescents, puisqu'il y a beaucoup de choses à lire. Alors il y a plein d'expériences, c'est très didactique, c'est très sympa, la Cité des Sciences, on touche, on a des choses à modifier, comment il a trouvé qu'il y avait de l'évolution, ben voilà, on a le cas d'un oiseau avec des becs qui évoluent, qui grossissent, donc faut les mettre dans l'ordre pour comprendre comment Darwin s'est posé des questions sur le principe d'évolution, etc. Donc c'est très intéressant que par ces petits jeux, ces petites questions, ces petits quiz, on recomprenne la démarche et l'importance qu'a l'évolution, parce que c'est une théorie scientifique qui est validée depuis déjà de nombreuses années, hein, depuis l'époque de Darwin quasiment, qui n'est pas remis en cause par les scientifiques, qui est remis en cause juste par les croyants, les religieux, les superstitieux et des gens comme ça, et qui explique beaucoup de choses et qui entraîne un truc important dont on n'a pas toujours conscience aujourd'hui parce qu'on l'a beaucoup accepté, c'est que la révolution de Darwin, c'est de dire que on était tous interreliés quelque part, en tout cas on avait des ancêtres communs, notamment les grands singes, mais on pouvait remonter jusqu'à un ancêtre commun avec les êtres humains que nous sommes, les Homo sapiens sapiens. Il parlait pas d'Homo sapiens sapiens puisqu'il avait pas encore toute la branche en tête, le père Darwin. Mais ça nous rappelle que du coup, ça a entraîné un respect des animaux qu'il n'y avait pas avant. Avant, on avait l'impression que c'est des trucs vivants qui servaient juste à manger ou on savait pas bien à quoi ça servait. Darwin, il a fait un lien avec tout ça. C'était un des premiers et ça a entraîné, je pense, quelque part, un nouveau respect, parce qu'effectivement, on avait des points communs, voire des ancêtres communs, voire on était issus de la même chose, et maintenant on sait qu'on est issus des mêmes éléments, des mêmes bactéries au départ, etc., puisque la science est remontée bien plus loin que Darwin l'avait même imaginé, hein. Darwin, il remontait pas jusqu'à avant l'homme, en fait, c'était trop tôt, il était déjà en avance sur son temps, Darwin. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette expo-là.
Oui, c'est assez bien construit, moi je trouve. Parce que alors, et bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce couple radiophonique que nous formons, tu es le scientifique. Voilà,
c'est vrai.
C'est vrai. Hein, il faut.
De par ma formation. Déjà.
De par ta formation, tout à fait. Ce qui m'empêche pas d'avoir un goût pour la chose. Mais comme on est des grands enfants, on a trouvé beaucoup de plaisir à cette exposition parce que c'est vrai que il y a tout ce multimédia interactif sur lequel on peut intervenir assez facilement. On comprend très très vite ce qu'on nous demande de faire et puis on tout de suite on a le résultat, on comprend ce qu'on nous a fait faire, on comprend où ça nous amène. Donc la première étape déjà va remettre le contexte, tout simplement, pour ensuite, dans l'exposition, pouvoir nous amener jusqu'à une finalité de mieux cerner sa conception, et jusqu'à une dernière partie qui s'intéresse aussi à cet homme. Rappelons-le, Darwin, bon, c'est déjà un homme qui a eu 10 enfants, qui a accompagné ses 10 enfants dans la recherche du savoir constamment, dans l'éducation. C'est un homme
esclavagiste,
bah oui. Anti-ségrégation. Alors, son père, déjà, ouais, se battait contre ses conceptions, ses pratiques.
Du coup, sa théorie, ça a permis d'entraîner un développement du respect du monde animal, mais aussi du respect des autres êtres humains qui n'avaient pas la même couleur de peau, puisque Darwin démontrait qu'on était finalement vraiment frères, voire ou cousins, enfin on appelle ça comme on veut, non, scientifiquement on dit pas frères ou cousins, hein, mais on était issus de la même espèce, etc. Donc Darwin a fait beaucoup, et c'était assez logique qu'ils se battent contre l'esclavagisme, qui était généralisé quand même à l'époque.
Ouais, ça nous rappelle que Darwin c'est un humaniste, et que sa conception elle l'est aussi, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que à travers une exposition scientifique, on arrive aussi à avoir une philosophie, et c'est là où c'est intéressant, c'est quand aussi ces concepts arrivent à se rencontrer. Et moi je trouve que c'est une très belle exposition qui est pas trop longue, hein, donc il faut pas hésiter à y aller. Nous on a beaucoup joué, on s'est beaucoup amusé, a priori nous on y est allé sans adolescents et sans enfants, hein, mais a priori autour de nous ça marche aussi assez bien. Alors voilà, il faut aussi prendre son temps, c'est assez important. C'est jusqu'au mois d'août à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à Paris.
Voilà, et puis si vous êtes pas par la théorie de l'évolution, ça vous remet notamment la notion de hasard. On rappelle que c'est quand même le hasard qui fait que il y a des individus différents qui apparaissent et qui finalement leur mutation due totalement au hasard, elle est profitable ou pas. Si elle est profitable, et ben elle peut, donc lui il peut s'en sortir, avoir des descendants, et petit à petit sa mutation reste et se transmet, alors que celui qui a une mutation qui sert à rien, voire qui le dessert, eh ben ne se reproduit pas ou moins bien, et voilà. Et ça remet en avant cette notion de hasard qui est fondamentale, surtout que dans les théories aujourd'hui des religieux monothéistes, pour certains abandonnent la notion de genèse, etc. Ils ont la notion de progression orientée par Dieu, de la science, enfin de l'évolution de l'homme, une évolution orientée. En anglais c'est intelligent design, qui est totalement faux. C'est bien le hasard qui est à l'intérieur de tout ça, et c'est très bien dit, très bien expliqué, et on recomprend bien ces théories de l'évolution qu'il faut toujours avoir en tête, parce que c'est un truc sur lequel il faut pas lâcher. Quand on voit aux États-Unis d'Amérique, quand on voit dans les pays arabes ce qu'ils ont lâché là-dessus, où on enseigne des trucs horribles, il faut vraiment lutter contre l'obscurantisme scientifique qui a repris du poil de la bête ces 15 dernières années.
Ah oui, puisque en Louisiane et dans le Tennessee, donc des États aux États-Unis d'Amérique, les professeurs des écoles publiques peuvent maintenant enseigner des alternatives à la théorie de l'évolution.
Oui, mais ça se fait dans certaines dans des écoles en Israël, ça se fait dans...
Alors que jusqu'à présent, ça avait tenu. Hein. Ouais, ouais. C'est très très récent. Il faut savoir qu'il y a quand même 42% des Américains, des États-Unis d'Amérique, qui pensent que Dieu a créé l'être humain sous sa forme actuelle il y a 10 000 ans. Donc c'est quand même un chiffre assez important. Il faut, par exemple, s'intéresser à des candidats à l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis d'Amérique, à des gens comme Monsieur Ben Carson, évangéliste, qui explique au New York Times il y a pas très longtemps, les organismes, les animaux ont la capacité de s'adapter à leur environnement. Les évolutionnistes disent que cela prouve l'évolution. Je dis que c'est une preuve de l'existence d'un Dieu intelligent qui a donné à ses créatures la capacité de s'adapter à leur environnement pour ne pas avoir à recommencer tous les 50 ans. C'est très simple, hein, je veux dire, voilà. Il faut se rendre compte aussi que quand Google, le 24 novembre dernier, a célébré sur sa page d'accueil, vous savez, Google se met souvent à l'heure d'un événement ou de quelque chose. Le 24 novembre dernier, Google a célébré la découverte, le 24 novembre 1974, du fossile de Lucie. Et ben cet événement aux États-Unis d'Amérique a déclenché une énorme vague de violence contre la multinationale, et contre le truc internet dont j'en ai perdu le mot. Tellement ça m'énerve. Ils ont reçu mais des tonnes de menaces de haine, disant que c'était inacceptable, que c'était pas l'évolution s'était achetée à la poubelle. Donc voilà, ça reste encore important d'avoir ce genre d'exposition pour remettre un petit peu les choses d'aplomb.
Alors on va descendre un petit peu au niveau de la France. France et on va aller voir du côté de la Méditerranée et à Marseille pour aller voir quelques expos, notamment au MUCEM.
Ouais, alors je te propose qu'on commence d'abord par la friche de la Belle de Mai, si tu veux bien. Nous avons vu deux expositions que nous avons beaucoup aimées.
Super bien, ouais.
Print Noise, Activisme graphique.
Ouais, une expo sur notamment des fanzines.
On aurait peut-être pu juste rappeler la friche de la Belle de Mai, c'est une ancienne manufacture des tabacs qui a été occupée, puis maintenant qui est rénovée, et donc dans lequel il y a une installation d'artistes, de résidence, et donc un certain nombre d'expositions. C'est un lieu assez ouvert, hein, dans lequel les gamins jouent dans la cour, et donc il y avait plusieurs expositions, dont
l'exposition sur le graphisme, là. Donc avec ces fanzines des années 70, 80, 60, même 90, 2000, fait soit en sérigraphie, soit quelques-uns avec des procédés un peu plus simples comme la photocopie, mais c'est souvent en sérigraphie, avec beaucoup de travail donc sur le graphisme, des choses choquantes aussi dans le contenu, voilà, et il y a pas mal de choses très intéressantes, et puis voilà, c'est quelque chose qu'on connaît bien ici à Lyon, on a des gens qui font de la sérigraphie et qui se battent pour que ce genre de procédé continue d'exister, et voilà, c'est une expo qui était aussi quelque part politique, hein, puisqu'il y a des messages dans ces fanzines de l'époque.
Ouais, c'est les deux angles, hein, c'est ça. C'est à la fois le travail graphique, le travail aussi par la sérigraphie, vraiment, parce que ça, c'est des artistes qui aiment ce travail-là. Et puis le contenu. Tu parlais de violence
De sexe, quand
même. On a aussi beaucoup de sexualité, des choses qui sont dans la caricature. Vous avez des grosses verges, des lèvres enflammées, des femmes qui s'envoient en l'air. Voilà, vous avez tout un travail aussi. De liberté aussi, hein, puisque il y a des choses qui datent des années 70 et 80 qui sont très très belles, hein, des choses beaucoup plus récentes, mais voilà, ça traverse un univers alternatif et underground quand même.
Et là, c'est hyper alternatif et hyper underground quand même, ce qui est présenté dans cette expo. C'est ça qui est intéressant, hein, de cet art qui est quand même populaire, parce que c'est pas du tout, on n'est pas dans le domaine de l'art avec des gens qui vont exposer en galerie et vendre des trucs de sérigraphie à des prix incroyables. Pas du tout, hein, c'était vraiment des trucs qui étaient tirés à un certain nombre d'exemples qui était vendu comme ça, qu'on trouvait dans les magasins alternatifs, dans les magasins de disques, notamment de vinyle, dans les squats, dans les choses comme ça. Et donc voilà, il y avait une vraie vivacité dans ce mouvement, qui doit y avoir toujours d'ailleurs, hein, ça continue
de perdurer. Ah oui, il y a des boîtes, là c'est une expo qui est organisée par le Dernier Cri,
qui a des locaux à la Friche.
Tout à fait, et qui travaille encore largement sur cette question graphique, fanzine, mais qui travaille aussi sur tous les supports, donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment toujours le papier, mais il y a d'autres supports qui peuvent être utilisés, et il y a un croisement artistique entre le graphisme, la peinture, les mots aussi qui apparaissent, donc là aussi la littérature quelque part, mais qui prend une autre forme, et tout ça se croise et ça donne des trucs, ouais, ça pète, c'est absolument incroyable à regarder, c'est une exposition qui est très très belle.
Ouais.
Et puis on en a profité pour revoir un artiste qu'on avait déjà vu, qui s'appelle Gilles Barbier, l'exposition s'appelle Écosystème, c'est une monographie qui est présentée en deux parties, une partie dans la tour et une partie au niveau du panorama. Alors bon, il faut aimer l'art contemporain.
Là c'est du coup vraiment une expo d'art contemporain avec un artiste installé, avec qui va en galerie, voilà, c'est plus proche de ce qu'on a dans les musées d'art contemporain, notamment le musée d'art contemporain de Lyon.
Mais c'est un artiste absolument fou, qui travaille par exemple sur des sortes de natures mortes, mais en repensant tout à fait son sujet. Mais finalement, ça peut paraître choquant parfois de voir ces morceaux de viande étalés là, comme ça, pendus au plafond. Mais il faut se rappeler que des natures mortes qui sont aujourd'hui dans les musées des Beaux-Arts, étalent elle aussi ses carcasses de viande sur des tables à côté de pommes et de raisins, et c'est un petit peu aussi son travail. Il déforme la matière, il la rend presque vulgaire parfois, il la rend très présente. Un bout de fromage révèle des choses absolument incroyables. Et puis il y a cette deuxième salle avec ses personnages, donc c'est sa tête, hein, qu'il a pris en masque, et il s'est mis en scène dans
différents costumes.
Ça donne une très belle installation, ça donne, faut dire que ces bâtiments sont assez beaux aussi pour accueillir ce genre d'exposition. Voilà, c'est ça fait partie de ces artistes qui vont toujours plus loin, qui se donnent peu de limites, qui sont absolument délirants, et que moi je vous invite à chaque fois à aller voir. Il y a une de ces installations qui se trouve à l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne. Il me semble que vous pouvez la voir, si je me gourre pas.
Alors on va parler du MUCEM maintenant.
Oui. Ah non, alors c'est pas lui qui est d'ailleurs. Je suis en train de demander Gilles Barbier. C'est peut-être au MAC à Lyon, alors où il y a peut-être une de ses œuvres d'art. Je suis en train de chercher mes papiers, mais je la retrouve pas. Alors on part effectivement au MUCEM, hein, donc un musée assez récent.
Oui, c'est tout neuf. Ouais.
Finalement à Marseille, en tout cas qui a amené une nouveauté au niveau des musées sur la ville. Alors, on sait. Alors déjà, c'est un bâtiment absolument magnifique, un bâtiment noir. On pourrait penser qu'il s'intègre assez mal dans cet environnement au bord du quai. Moi, je le trouve très beau. On a cette dentelle noire. C'est finalement, moi, je pense, un bâtiment qui amène quelque chose hein, sur ce quai, qui est très très beau. Et donc, nous sommes allés voir la galerie de la Méditerranée où se déroulent des expositions semi-temporaires. Ça veut dire que tous les 3-6 mois, une partie des objets mis en démonstration peuvent être changés. D'autres peuvent être incorporés, soit à partir des collections du musée, soit par des prêts d'autres musées. Alors bon, on va tout de suite dire que nous, on a un peu une visite biaisée. Parce qu'on a fait cette visite en individuel et très sincèrement, il faut pas le faire. Je pense que sans guide ou sans visite scolaire, ça pose un problème. Reste qu'après, l'amoncellement d'objets nous a laissé un peu perplexes dans ces deux salles autour de quatre thématiques. Si tu te souviens bien, nous avions d'abord, Laurent, Invention des agricultures, Naissance des dieux, cette première salle.
Ouais. Non, mais l'idée, c'est de faire un truc, une sorte d'identité de la Méditerranée. Donc, il nous montre, là, ça commence avec l'agriculture, c'est tout gentil, tout plan-plan. On a des choses qui viennent un peu de la Méditerranée, comme s'il y avait une cohérence dans la Méditerranée. Ça, c'est difficile à imaginer, mais il y a eu un moment, un ou deux moments dans l'histoire où, effectivement, il y a eu des grands empires en Méditerranée, notamment, on pense aux Grecs ou aux Romains, qui ont enseigné après tout autour de cette mer. Hein, Marseille a été fondée par les Grecs, etc. Mais en dehors de ça, l'influence et le lien collectif entre ces peuples, ces pays, ou vous appelez ça comme vous voulez, ces habitants, ces cités, semblent un petit peu artificiels, notamment. Alors sur l'agriculture encore, on pourrait imaginer des choses communes.
Il paraît que c'est un hommage en particulier autour de l'olive, par exemple. Alors c'est vrai que vous allez y avoir des objets du quotidien, mais qui sont tellement mis dans une petite pièce et entassés les uns sur les autres que finalement. Vous savez plus où donner de la tête, et puis finalement, c'est des objets du quotidien. Oui, mais pourquoi, comment? Ah bon, c'est censé être la Méditerranée? Ah bon, c'est censé renvoyer d'un côté et de l'autre? Bon, vous êtes un petit peu sceptique. Alors, ensuite, c'est là où tu voulais en venir, là, l'entrée sur la deuxième salle, Jérusalem, ville trois fois sainte.
Donc là, voilà, pour parler de la Méditerranée, on parle de Jérusalem et des religions monothéistes. Comme fondateur des peuples de la Méditerranée, c'est bizarre quand même de voir ça, parce que d'abord il y avait des religions avant ces trois religions monothéistes, donc du coup c'est nier le passé, hein, ce qui est très choquant déjà scientifiquement et historiquement, et puis c'est un petit peu artificiel de se faire ce lien avec Jérusalem placée là sur la Méditerranée. Jérusalem est pas sur la Méditerranée, elle est un peu à l'intérieur des terres quand même, faut le dire, mais bon, on veut bien comprendre que la Palestine soit sur la Méditerranée, ça on le voit très bien. Après voilà, ça me paraît très 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 bizarre. Bon, en plus c'est un truc d'adoration des dieux, enfin ils font la propagande de dieux, hein. Il y a aucune image négative sur la religion, c'est juste.
Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y avait cette installation dont j'ai perdu le nom du plasticien.
Avec la boîte vide.
Oui, pour parler des agnostiques. Donc ça amène aussi une autre dimension, parce que justement dans cette deuxième partie d'exposition, on se retrouve avec à la fois, on va dire, des objets ethnologiques ou archéologiques, et à la fois avec des œuvres contemporaines qui se mêlent. Mais c'est vrai que la lecture est quand même assez difficile, pour tout vous dire. Moi, je suis retournée voir une des personnes à l'entrée pour tenter de me redonner, me recadrer un petit peu les objectifs de cette deuxième salle. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, hein, c'est amené à se transformer, la Galerie de la Méditerranée, tous les 3 à 5 ans, c'est pas du tout en moi, hein, excusez-moi. Donc oui, ça t'a un petit peu laissé sceptique, mais après, je pense que plus on avançait, plus plus tu as eu un petit peu des doutes.
Moins c'est cohérent, en fait.
La citoyenneté et les droits de l'homme, ça t'a un petit peu interpellé. Bah, tu as eu du mal, il me semble, à trouver, comme moi, hein, du sens.
Parce que d'un seul coup, donc on parle, on essaye de faire de créer une identité là, des peuples de la Méditerranée. Moi, je veux bien que ça ait pu exister. Et puis, qu'à un moment, on arrive à la Révolution française. Alors, Marseille, c'est connu pour être un haut lieu de la Révolution française. Bizarrement pas, mais je sais pas pourquoi. On arrive là. Et d'ailleurs, comme image de la Révolution française, on a une guillotine. Alors, je suis pas sûr que ce soit un représentatif de la Révolution. Deux, pour parler de droits de l'homme, c'est pas terrible, la guillotine. Et voilà. Et là, donc, on attaque des zones totalement incohérentes où, à un moment, on a le mur de Berlin. Enfin, un pan du mur de Berlin, vous savez, il y en a dans presque tous les musées du monde, dans des pans du mur de Berlin, pour parler des droits de l'homme. Mais quel est le lien avec le peuple de la Méditerranée? Puisque Berlin, c'est pas tout à fait la Méditerranée. Enfin, du coup, on a une incohérence, parce que les droits de l'homme, c'est pas né en Méditerranée. Alors, c'est né c'est le siècle des Lumières, mais c'est plutôt l'île de France. Hein, enfin, c'est-à-dire le Paris, où les idées ont beaucoup germé dans ce milieu intellectuel-là. Je suis pas sûr que les gens qui habitaient Nice, ou qui habitaient la Corse, ou qui habitaient l'Italie, ils étaient sensibilisés sur ces droits de l'homme avant que la Révolution française explose. Hein. Ça semble très artificiel, ce qui a été fait, pour essayer de dire, bah oui, c'est en Méditerranée que sont nés les droits de l'homme, que sont nés les religions monothéistes, sont nés machin, sont nés l'agriculture, sont nés... Mais à la fin, on se dit, mais alors du coup, le reste du monde compte pas. Finalement, si tout est important, tout ce qui a lieu important, c'est écrit en Méditerranée. Donc c'est presque identitaire comme exposition.
Alors sur l'idée des droits de l'homme et de la citoyenneté, c'est de partir sur l'histoire de la Grèce antique, par exemple, histoire de la Méditerranée. Parce que ça suffit pas, effectivement, à construire une Méditerranée. Sur le mur de Berlin, moi je comprends bien l'idée qui est déclarée sur le pourquoi de cette acquisition. C'est sur la liberté de circulation, chose importante, en particulier en Méditerranée, on le sait bien, à l'heure où il y a des réfugiés sur des bateaux dont certains meurent noyés. La liberté de circulation a tout à voir dans cette exposition. Elle est importante, sauf que ce mur, ils auraient pu prendre un autre mur déjà. Et il est décalé et il fait finalement, il perd son sens. Posé un petit peu, j'allais dire comme une merde, mais excusez-moi parce que c'est pas joli, mais il perd son sens, il perd de sa symbolique, je trouve, perdu dans cette exposition au milieu d'autres objets et d'autres œuvres. Alors pourtant nous, il y a des choses qui nous ont plu, mais elles nous ont plu individuellement. On a beaucoup aimé un tableau de 2004 de Philippe Casal. C'est une sérigraphie sur plaque aluminium au fond rouge et au lettrage bleu. Il y a trois lignes. La première dit Nidi, la deuxième dit Unima, la troisième dit Itre, et cela donne ni Dieu ni maître. Donc évidemment, ça nous a beaucoup amusé.
Ouais, exactement, parce que c'est pas lisible facilement. Puis quand on remet qu'on coupe le mot dans le bon sens, et on a le fameux ni Dieu ni maître. Bon, après, on sait pas ce que ça peut faire dans l'expo, mais alors, ça nous a plu.
Ouais, ça nous a plu. Bon, après, Philippe Casal, il a été l'un des fondateurs du groupe Intel, il a été l'éditeur de la revue Publique dans les années 80, qui a permis quand même à beaucoup d'artistes d'art contemporain de se faire un peu connaître, hein, parce qu'il s'intéressait à une avant-garde et à une alternative. C'est un travail qui mène beaucoup sur ces principes d'annonces publicitaires, de journaux, de photos d'affiches, donc ça fait partie d'une de ces séries. Ce travail nous a beaucoup plu. On a aussi, donc c'est lui que vous pouvez retrouver à l'Institut d'Art Contemporain avec une œuvre, ça y est, je retrouve enfin mes notes, qui s'appelle Kadira. C'est une vidéo couleur qui tourne en boucle, que vous pouvez donc retrouver à Villeurbanne. On a beaucoup aimé aussi une installation de Christophe Berdaguer et de Marie Péjus qui s'appelle Jardin d'addiction. Mais c'est pareil, on a eu du mal à la repositionner au sein de cette exposition. C'est une très belle œuvre avec du verre, des bulbes, dans lequel sont enfermés des substances addictives, des odeurs, café, tabac, vin, whisky, de l'opium, de l'héroïne, de la cocaïne. Mais vous pouvez pas les sentir et donc ça s'entremêle. Donc on a l'impression à la fois d'être face au réseau du cerveau. Il y a une fragilité du verre, il y a une complication dans tout ça. S'entortille. C'est très très beau et pourtant on peut rien sentir. On est un petit peu frustré de pas avoir cette addiction. Donc voilà, il y a quand même des choses qu'on a beaucoup aimées, hein, mais c'est individuel. Ça reste une exposition sur laquelle on a pas accroché au niveau scientifique et artistique, malheureusement. Moi, je vous invite quand même à y aller, hein, faites-vous votre avis, mais il faut y aller avec une visite guidée, je pense, pour arriver à comprendre exactement le pourquoi. Voilà, reste qu'effectivement, moi, ça me rappelle aussi quand même des propos de M. Sarkozy sur ce que peut être la civilisation et la Méditerranée. Et je trouve que le MUCEM, là, a un petit peu raté son coup, quand même. Mais enfin, après, c'est le but de ce musée, hein, c'est la Méditerranée.
Ouais, c'est ça. C'est très identitaire, du coup, très régionaliste. Alors, à Marseille, il y a un musée d'art contemporain, donc un MAC, et on a essayé d'y aller, et ils n'ont pas voulu de nous.
Ah ouais, parce que alors il y avait une magnifique exposition d'Alfredo Jarre, qui malheureusement s'arrête le 10 janvier prochain. Nous l'avons tant aimé, la Révolution. On était très très excités à l'idée d'aller voir cette exposition au Musée d'Art Contemporain de Marseille, qu'il faut déjà resituer, excusez-moi, elle est dans le 8e arrondissement. Donc c'est bien, parce que c'est un musée qui est à l'écart du centre-ville. C'est plutôt une bonne chose de sortir des quartiers culturel habituel. Simplement, moi, je note que depuis sa création dans les années 90, le MAC, il est toujours aussi excentré. C'est-à-dire que c'est toujours pas simple de y aller quand on n'a pas de voiture, hein, tout simplement. On peut pas dire que la municipalité mette beaucoup de moyens pour le rendre accessible. Et donc, on a eu quelques soucis à l'entrée.
Ils nous ont jetés, simplement. Il n'y a pas d'autre mot. On est arrivé comme d'habitude avec un petit sac dans lequel nous avions des choses personnelles. Et les sacs étaient interdits à l'entrée dans le musée et il n'y avait pas de vestiaire. Donc la solution, c'était de... vous pouvez pas rentrer avec vos sacs.
Alors on précisera que moi je trouve tout à fait normal que dans certains musées, on empêche d'avoir des sacs à dos. Pourquoi ? Parce que déjà quand il y a du monde, ça vous évite de frapper votre voisin ou votre voisine à coups de sac à dos pendant 2 heures. Et puis, une œuvre, ça se casse, ça s'abîme, ça se raye. Donc, pourquoi pas? Mais c'est pour ça qu'il y a des vestiaires, d'ailleurs, hein. Et c'est pour ça qu'aussi, certains lieux refusent les sacs à dos, vous demandent de les porter devant. Ça vous permet de maîtriser un petit peu votre corps et votre matériel. Parce qu'il faut savoir que dans toutes les expositions qu'on a fait sur cette fin d'année, partout, il y a des vigiles, partout, il y a des contrôles, il y a même des machines où vous passez, qui vous scannent vos sacs.
Oui, à l'Institut du Monde Arabe, notamment.
Au Centre Pompidou. Vous êtes passé aussi au scanner, hein, on vous fait ouvrir les manteaux, enfin bon. A priori, le MAC ne mérite pas des choses. Alors nous, on n'aime pas les vigiles, on n'aime pas être fouillés. Mais c'est vrai que là, le musée reste ouvert tout en refusant les gens. Puisqu'évidemment, le personnel du musée, bien heureusement, pour le personnel et pour nous-mêmes, n'a pas le droit de fouiller les visiteurs. Mais rien n'a été mis en place pour permettre quand même d'accueillir ces visiteurs. Et ce qui nous a été donné comme excuse, c'est pas le fait de pouvoir abîmer les œuvres. C'était bien pour des problèmes de sécurité suite aux attentats qui ont eu lieu à Paris au mois de novembre. On a eu un discours...
d'extrême droite.
Ouais, bon, après, hein, ça n'engageait que la dame, hein, on va le dire. Après, moi je comprends bien, ces gens, ce personnel se retrouve sans possibilité d'accueillir les visiteurs, hein,
Faut quand même avoir en tête que le sac qui était récriminé est un tout petit sac, pas un gros sac à dos, et que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'attentat au sac à dos en France, hein. Donc, quelqu'un pouvait rentrer avec une ceinture d'explosifs sans sac à dos, alors quelqu'un avec un sac à dos sans ceinture d'explosifs pouvait pas rentrer. C'est assez incohérent, leur système.
On en arrive quand même à une bêtise, hein, c'est-à-dire que si on estime, puisque c'est les propos qu'on nous a tenus, que vu ce qui s'est passé, d'ailleurs on n'a pas bien su exactement ce qu'il fallait qu'on fasse suite à ce qui s'était passé, moi je me dis, si c'est important, si on est en période de deuil, on ferme un musée tout simplement. Nous on a raconté un peu cette histoire à d'autres endroits à Marseille, ça a semblé surprendre personne, c'est-à-dire que le musée a sa petite réputation. C'est dommage quand même, parce que ce musée il mérite mieux, Alfredo Jarre mérite certainement mieux. Les artistes méritent certainement mieux que un abandon de la municipalité, parce qu'encore une fois, le personnel il fait ce qu'il peut, il répond aussi comme il peut. Bon, nous, on va pas vous cacher aussi, hein, la réalité, c'est qu'on s'est un peu vite énervé aussi. Il y a quand même des choses qui nous agacent quand on était aussi motivé en plus pour aller voir une exposition d'art contemporain. Voilà, c'est un peu dommage qu'il y ait eu un petit peu cet écart. Voilà. On aurait pu juste dire aussi sur le MUCEM, si tu veux bien, qu'on a aussi assisté et découvert une autre exposition sur les panoramas et qu'on en est ressorti avec la même idée sur la scénographie et sur l'intérêt scientifique et artistique. C'est qu'il y a un problème quand même.
MUCEM, ouais. Voilà. Il faut qu'ils changent de tactique, qu'ils réfléchissent.
On va parler BD ?
Ouais, brièvement, puisqu'on a un peu dépassé l'heure déjà, avec deux BD que je voulais présenter. Alors d'abord, deux tomes d'une série qui s'appelle Les Communardes. C'est des séries qui se passent pendant la Commune de Paris, vous savez, 1871. Alors, le premier tome qui s'appelle Les Enfants Rouges se passe avant la Commune de Paris, en octobre 1870. Donc, quand les armées prussiennes de Bismarck sont présentes dans Paris, à Versailles notamment, au moment où le peuple parisien, les habitants de Paris vont se rebeller, prendre les armes et jeter l'armée prussienne. Donc le premier tome se passe durant cette période, donc pré-commune on va dire, avec les comités de femmes qui se mettent en place. Alors on suit en fait une enfant qui s'appelle Victorine, qui est très fan des deux éléphants qui sont au Jardin des Plantes, je crois, donc dans Paris, et qui va se servir de ces deux éléphants au moment du combat pour virer les Prussiens et virer aussi les méchants bourgeois qui avaient volé la Révolution. Alors l'idée du scénariste, Monsieur Lupano, là donc c'est une dessinatrice qui fait les dessins sur le premier tome, c'est de montrer les femmes, alors c'est romancé, hein, des femmes pendant cette période révolutionnaire qui était la Commune de Paris. Donc là on suit Victorine et sa maman qui est dans des collectifs de femmes qui s'appellent les Amazones de la Seine, hein, qui vont prendre les armes aux côtés des hommes pour virer les Prussiens. Donc c'est un premier tome, alors c'est en couleur, c'est assez joli, puis on se retrouve dans l'ambiance de la Commune de Paris, ce qui est assez sympa parce qu'il y a quand même pas mal d'idées qui sont émises à ce moment-là sur le droit de vote des femmes, sur plein de choses qui apparaîtront bien longtemps plus tard en France. Suite à ça, il a sorti instantanément un tome 2 dessiné par une autre personne, cette fois-ci un homme. Un tome 2 moi que j'ai préféré qui s'appelle L'aristocrate fantôme. Donc l'idée c'est que Marx, donc Karl Marx, hein, qui est pas en France, envoie cet aristocrate fantôme, une jeune femme de 20 ans, à Paris pour voir ce qui se passe pendant ce mois d'avril 71, puisque là on est en pleine Commune de Paris, en avril 71. Cette jeune femme, elle arrive, et du coup, elle s'investit dans des mouvements, notamment dans l'Union des femmes pour la défense de Paris et l'aide aux blessés. Donc des mouvements gérés par les femmes, avec des femmes à l'intérieur, puisque l'idée c'est de montrer des femmes pendant des périodes révolutionnaires. Donc on a cette fille d'aristocrate donc qui est plutôt cultivée, se mettre avec les femmes du peuple et participer à plein de choses, se battre contre les hommes, hein, parce qu'on a quand même des misogynes au sein des révolutionnaires. Et puis on a cette bataille jusqu'à ça se termine par la catastrophe, hein, qu'on appelle la semaine sanglante, quand les républicains, je ne sais pas si on peut appeler ça les républicains, mais le gouvernement de Thiers et associé aux monarchistes va venir massacrer les révolutionnaires et le peuple parisien. Donc on voit un peu ces femmes s'investir dans plein de choses, essayer dans le combat, mais aussi dans plein d'autres choses. Et puis indirectement, on voit le rôle de la banque, notamment de la Banque de France. Ce qui nous rappelle un petit peu ce qui se passe en Europe, c'est que c'est pas important que la banque soit en Allemagne, en Espagne, en Grèce ou n'importe où. L'important c'est que ce soit le peuple qui décide de ce que fait l'argent de la banque centrale d'un pays ou d'un groupe de pays. Et là, ce qui se passe pendant la Commune de Paris, c'est que les communards sont faibles et laissent rentrer les émissaires de Thiers pour aller voir la banque. Et le bilan à la fin de tout ça, c'est que la Banque de France va donner énormément d'argent à Thiers et très peu à la Commune de Paris. Et c'est un des facteurs décisifs de la victoire de Thiers et de ses alliés monarchistes. C'est qu'ils ont d'énormes finances grâce à la Banque de France. Or, si le peuple, c'est-à-dire les communards, avaient pris la main sur la Banque de France et décidé de gérer la Banque de France, que veut faire l'héroïne de la BD? Eh ben peut-être qu'ils auraient pu changer les choses, ou peut-être pas, mais en tout cas ils auraient eu au moins les moyens financiers de leur lutte, parce que là ils n'arrivaient pas à acheter de fusils, il y avait plein de soucis comme ça. Donc ça parle aussi finalement du rôle de la banque, des banques qu'elles peuvent avoir, qui sont toujours contre-révolutionnaires, hein, forcément. Donc voilà, et on a de très belles images, et ceux qui ont fait la gloire du drapeau français, moi j'ai trouvé ça marrant, un petit clin d'œil à ceux qui se glorifient de ce bleu, blanc, rouge, puisque dans les scènes de bataille finale, on a donc Thiers et ses alliés monarchistes qui arrivent, donc qui envoient leur armée, elle a comme drapeau le drapeau bleu, blanc, rouge, et en face le peuple, les révolutionnaires, ils ont le drapeau rouge. Donc voilà, peut-être que c'était le drapeau rouge qu'il fallait garder et pas le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, il y aura un tome 3 de ces communardes qui devrait sortir au mois de février, qui sera le dernier. Donc avec une nouvelle histoire d'une femme pendant cette période révolutionnaire qui était la Commune de Paris. Et puis j'ai terminé très rapidement avec une BD sur laquelle qu'on n'attendait pas du tout, qui s'appelle Le Transpersonnage. Donc Le Transpersonnage, nous on a découvert, et la BD d'ailleurs, hein, parce que moi je m'en souvenais pas, avec le film du coréen dont j'ai perdu le nom.
Alors moi je suis pas fan, hein, et de la BD et du film, et le film, oui, non, le film vraiment pas. Il y a des scènes que je me souviens avoir trouvées absolument ridicules, en particulier dans la salle de classe. Non, il y a la fin, enfin, non, le film vraiment pas. La BD, c'est plus au niveau du, oui, du côté un petit peu, c'est pas tant l'écriture, c'est pas tant le dessin, c'est plus oui, ce qu'il raconte, le côté un peu spirituel des fois. Non, j'ai jamais bien accroché. Alors ça, peut-être que celui-ci va me redonner envie de m'y mettre.
Je suis pas sûr, hein, parce que c'est vraiment la suite. Donc cette BD, hein, Le Transpersonnage, qui a été adaptée là par ce coréen, c'est assez incroyable, hein, c'est une BD du début des années 80 au départ, de Loeb, qui était au scénario, qui est toujours vivant je crois, et puis de Rochette, qui est plus là, lui qui avait fait les dessins. Puis il y a eu plusieurs tomes, et est sorti cette année Terminus, la fin, quand le train, là, ce transpersonnage,
tu vas spoiler.
Non, je donne juste le début de l'histoire. Sort des rails parce qu'ils ont entendu, ils ont mesuré un signal radio quelque part. Donc ils se disent, il y a d'autres êtres humains que nous. Donc ils décident de faire sortir le train du rail et de rouler sur la neige. Bon, il y a plein de voilà. Ils arrivent dans un endroit où effectivement il y a des gens qui survivent, et on a une micro-société totalitaire. Voilà, et c'est la fin. C'est censé être la fin de toute cette histoire. Donc commence en 1982. Ce terminus de ce transpersonnage, c'est de la science-fiction. Je rappelle que ils sont sur la Terre, et tout est devenu froid suite à des problèmes climatiques où les scientifiques ont voulu jouer les apprentis sorciers, modifier le climat. C'est aussi intéressant de se poser des questions, de se dire attention, faut pas faire des conneries. On a du réchauffement climatique, plutôt qu'essayer de modifier le climat, on ferait mieux d'arrêter d'émettre les trucs qui réchauffent. C'est peut-être aussi ça le fond de la BD, hein. Toutes les BD de science-fiction ont un sens quand même, il faut le rappeler. Et là, c'est effectivement dénoncer les scientifiques qui seraient, avec leurs alliés politiques, porteurs cette idée de modifier les choses qu'on crée de manière négative plutôt que d'arrêter de créer les choses négatives. Donc voilà, j'adore, hein, même les premiers tomes que t'aimais pas. Donc là, c'est en couleur cette fois, avec un dessin très très cru. Et voilà, je trouve que c'est une bonne fin pour cette série un peu historique, hein, du début des années 80. Donc voilà, et puis je voulais terminer en annonçant deux morts. Alors c'est deux morts de plus, vous allez me dire, mais c'est deux morts assez célèbres. Ian Murdoch qui est mort aujourd'hui.
Ça, c'est surtout lui dont on pourrait parler, le deuxième on pourra s'en passer, mais
non,
tu n'y arriveras pas.
Je suis pas d'accord. Donc lui, alors Ian, il est connu parce que si vous connaissez Linux, vous savez que c'est souvent basé sur un noyau qui s'appelle Debian. Et le Ian de Debian, c'est Ian Murdoch, puisqu'il est fait partie des gens qui ont créé Debian, c'est-à-dire un projet alternatif de système d'exploitation à Mac et à Windows, qui est aujourd'hui à l'origine de Ubuntu et de toutes les différentes versions qui peuvent exister des systèmes qui sont basés sur Debian. Si vous avez un petit ordinateur Raspberry, le système que vous avez dedans, c'est sûrement Raspbian, qui est donc issu de Debian. Voilà, il est mort à 42 ans, c'est pas dans quelles circonstances. Il avait annoncé qu'il voulait se suicider, on sait pas bien ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, voilà, 42 ans, il est mort. Quelqu'un qui s'est toujours battu, hein, quand même, pour le logiciel libre.
Et puis, donc maintenant, nous allons clore cette émission.
Non, c'est inévitable que je parle de ça, même si tout le monde en a parlé. C'est quand même la triste fin de Motorhead et de son leader, Lemmy Kilmister. Enfin, Lemmy tout court, on va l'appeler, hein, quand même. Donc légende du rock, qui est mort à 70 ans. Il a fêté 70 ans fin décembre, et quelques jours après ils ont détecté un cancer, et 4 jours après il est mort. Donc il y a 2 jours. Donc voilà, alors je ne vais pas refaire une biographie de Lemmy, qui n'était pas forcément respectable, qui n'était pas forcément sympa. Le mieux, je pense, pour connaître Lemmy, c'est de voir le film qui était sorti sur lui, qui s'appelle Lemmy, où vous avez des scènes absolument horribles, on a eu envie de lui casser la gueule, hein, quand il a le drapeau nazi derrière lui. Non pas qu'il ait été nazi, ni raciste, mais il est fasciné par le Troisième Reich et les choses militaires, donc il avait plein de côtés négatifs, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le rock'n'roll.
En fait, dans ce document, on voit un homme un peu qui cherche...
Un peu bête.
Oui, c'est pas exactement le terme, mais qui manque parfois un peu d'éducation, donc qui essaye de se construire aussi une éducation. Bon, qu'elle soit un rapport à l'alcool, à la drogue, ça aide pas beaucoup non plus pour arriver un petit peu à se construire aussi, non, parfois dans la tranquillité.
Les scènes avec son fils qui sont... On a l'impression qu'il s'est jamais occupé de son fils.
Bon, ça, après, c'est sa vie personnelle, c'est mais c'est vrai que quand on s'intéresse voilà, à son parcours, on se dit que oui, c'est un homme qui a manqué de base et de fondement pour se construire au niveau, oui, à d'autres niveaux que sa musique. Et voilà, et donc ça donne des grosses conneries comme lui avec ses insignes nazis.
Ou lui, avec le char d'assaut, quand il va essayer le char d'assaut, où il a on a l'impression de voir un gamin de 10 ans qui découvre une arme de guerre et qui tout content, ben non, c'est pas rigolo, un char d'assaut. Enfin voilà, mais ce qui nous rappelle finalement, c'est que Lemmy, il a passé toute sa vie quasiment, hein, plus de 60 ans, enfin on va dire même non, plus de 55 ans de sa vie à la musique, dans la musique, à faire de la musique, à être oldies au début, à jouer de la musique. Il est mort à 70 ans avec au moins plus de 50 ans de carrière de musicien. Donc voilà, c'est ça sa vie, c'est la vie d'un grand musicien, alors pas techniquement, hein, mais qui a fait beaucoup de choses dans le rock'n'roll. Un musicien mythique quand même, qu'on a vu moult fois, mais qu'on ne verra plus. Et c'est finalement quelque part une fin qui arrive à un moment où il fallait que ça arrive, puisque la dernière tournée était absolument horrible. Il n'arrivait plus à monter sur scène, il tremblait. Enfin, soit il fallait qu'il arrête la musique, soit il fallait qu'il décède. On avait l'impression qu'il voulait aller jusqu'au bout et mourir finalement quelque part en continuant de faire du rock and roll. Bah, finalement, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a fêté son anniversaire et quelques jours après, il est mort, alors qu'il y avait il a fait des concerts quelques jours avant, et il avait des concerts prévus quelques jours après. Donc voilà, il a vécu le rock'n'roll jusqu'au bout.
Bon, allez, bah vous pourrez en rediscuter
elle aime pas
demain. Ah, si, non, je suis pas une grande fan de Motorhead. Mais vous pourrez donc réécouter tout Motorhead demain dans Noise Pollution.
Non, pas demain. Ah. Demain, il n'y a pas de Noise Pollution.
Ah, alors la semaine prochaine.
Voilà, le 8 janvier, on fait un spécial Lemmy et un spécial Motorhead. Oui.
Nous, en tout cas, on sera bien là la semaine prochaine, jeudi 7 janvier 2016. On sait déjà qu'on va vous parler de plusieurs expositions. On vous parlera de la première biennale d'art, la première biennale de la photographie arabe que nous avons vue à l'Institut du Monde Arabe et à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Mmh. Ça nous permettra de reparler par exemple de la Tunisie.
Et des révolutions arabes.
Et puis nous allons vous parler de deux expositions que nous avons vues au Centre Pompidou. Une exposition de Wilfredo Lam que nous avons beaucoup aimé, une très belle monographie. Et puis nous reviendrons sur une expo photo d'Agnès Varda quand il est allé en Cuba en 1963. Vous verrez, c'est très très chouette et ça nous permettra aussi de reparler de Cuba.
Et de son film, enfin d'Agnès Varda sur Cuba.
Et puis de Cuba.
Et puis de Cuba.
Voilà. Fidel, et puis on fera le Raoul, enfin de tous ces gens.
Ouais, ouais, parce que du coup on voit Fidel et Raoul.
On va faire un petit point aussi.
Raoul Castro.
Voilà. Bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. On se doutait bien que ce soir vous deviez être moins nombreux et nombreuses à nous écouter derrière votre poste, mais on s'est dit que peut-être que vous bossiez.
Peut-être que vous préparez.
Voilà.
Et que vous écoutez Radio Canu.
Puis, oui, moi je pensais aussi à ceux et à celles qui bossent ce soir, à ceux qui sont privés et à celles qui sont privées de liberté. C'est pas toujours facile en ces moments de fin d'année, en ces moments de fête. On vous souhaite plein de trucs. Hein. Éclatez-vous bien ce soir. Même si vous bossez, je sais pas, pas danser quoi. Pensez à la salsa cubaine, hein, parce que nous, depuis qu'on a vu le film, revu ce film d'Agnès Varda, Salut les Cubains, on bouse du popotin. Nous on se retrouve l'année prochaine. C'est tout simple, c'est dans quelques jours.
Bye bye.
Ciao.